France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Et le Molière de la révélation masculine est attribué à Benoît Cotin.
Waouh, merci mille fois, merci. Je voudrais partager ce Molière évidemment avec toute l'équipe des producteurs, tous les petits amis sur scène. Régis un jour a dit que cette équipe c'était une mêlée de rugby et c'est vrai. Tous ceux qui sont sur scène, tous les musiciens, tous les techniciens qui font un travail vital pour le spectacle, je vous aime si fort. Je voudrais simplement citer deux noms, Alexis Michalak et Serge Postigo.
C'était il y a 15 jours, aux Folies Bergères, la 33e cérémonie des Molières. Benoît Cotin, vous receviez votre premier Molière.
Ouais, le tout premier.
Et vous faisiez déjà des blagues.
Bah, je me dis, quitte à prendre la parole, autant essayer de faire un truc un peu rigolo.
Donc, voilà, Michalak au lieu de Michalik. Vous tenez l'un des deux rôles principaux dans Les Producteurs, la comédie musicale de Mel Brooks, revisitée par Alexis Michalik, donc à l'affiche depuis fin novembre au Théâtre de Paris et qui reviendra dès la rentrée. Les Producteurs qui ont d'ailleurs reçu à cette même cérémonie le Molière du meilleur spectacle musical. Alors merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation.
Mais
aujourd'hui.
Merci à vous, merci beaucoup.
Parce qu'on vous a vu auparavant dans de nombreuses comédies musicales et vous allez nous raconter tout cela. C'est vous aujourd'hui en tout cas qui programmez 42e rue dans Les Producteurs. Oh, vous incarnez un petit comptable, si j'ose dire, malheureux,
ah oui.
Qui s'associe avec un producteur déchu de Broadway pour monter la pire pièce possible. Son rêve, c'est de devenir producteur. C'est le titre de ce morceau que vous avez interprété sur le plateau de 42e rue fait son show il y a maintenant un an et demi, rappelez-vous.
Non mais le statut là, c'est pas mon agent, mais non, la culture.
Malheureux, malheureux, vraiment, 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 vraiment malheureux. Le matin, je fais des débits, l'après-midi, je fais des crédits, et chaque jour s'écoule ainsi, et chaque jour s'écoule ainsi.
À fond la culture, vas-y.
Je passe ma vie dans les comptes, des calculs sans fin. Malheureux, si j'additionne ce qui compte dans ma vie, je trouve rien.
Malheureux,
pourtant au fond de mon âme, un rêve secret me consume. Chaque fois mon cœur s'enflamme. Quand je me vois dans le costume.
Allez, fais quelque chose. Vas-y,
mais si.
Shuffle up step.
Vas-y, fais quelque chose.
Montre à Laurent Vallière ce que tu sais faire.
Tout cela pour cela, présente.
Allez, vas-y.
Faut que tu chantes, faut que tu chantes.
Allez, vas-y, chante.
Je voudrais être un producteur.
Ah, c'est moi là. Ouais.
Avoir un show à Broadway. Je voudrais être un producteur, chaque soir affiché, complet.
On y croit, massif.
Je voudrais être un producteur, porter le haut de forme et la cape. Car si j'étais un producteur, je serais le tombeur de ces dames.
Il y a Laurent Vallière.
Salut Laurent.
Ah, si j'étais un producteur, j'aurais des filles plein les bras. Ah, si j'étais un producteur, je dirais toi, 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 pas toi. Quand je serais un producteur, j'aurais des tas d'assistants. Sur l'affiche, il y aura mon nom en cran.
Très, 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 magnifique.
Quand tu seras un producteur,
du tas.
Allez-y les filles.
Tous ces chaufferont du bruit.
N'oubliez pas le balcon.
Quand il sera un producteur, il aura les poches bien remplies. Quand il sera un producteur, il nous passera jusqu'à ce qu'on crie.
Oh. Non oh. Oui.
Vivant qu'il soit un producteur.
Ah si j'étais, je serais le plus grand, le plus puissant, le plus important producteur du monde.
Et s'il était un producteur, il vivrait avec les
étoilés. Oui, si j'étais un producteur, je boirais du champ jusqu'à gerber.
Boire du champ et gerber.
Je serais un producteur, on ne parlera plus que de moi. Je monterai les shows, les plumes et galops.
Mon nom sera dans tous les journaux.
Je voudrais être un producteur. Mais c'est tout ce que je suis pas.
Malheureux, malheureux. Très malheureux, vraiment, 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 triste.
Ah, si j'étais un producteur.
On n'est pas peu fiers de ça, nous, sur la 42e rue, parce que c'était chouette. Une prise de rôle en décembre 2020, finalement.
Oui. C'était le premier extrait qu'on a travaillé et qu'on a présenté alors qu'on aurait dû être en train de jouer depuis 3 mois. En fait, on faisait rien. On attendait que ça rouvre et donc...
Le Covid était passé par là.
Le Covid avait un petit peu tout foutu en l'air. En fait, le confinement est tombé 4 jours après le dernier tour d'audition. En mars 2020.
2020.
Voilà, c'est arrivé vraiment pile. Et donc, on aurait dû démarrer en septembre 2020. Ouais. Finalement, on a démarré en décembre 2021. Donc là, fin 2020, cet extrait-là, c'était encore donc, l'ancien texte qui a changé depuis.
L'ancien tempo.
L'ancien tempo, c'est un petit peu plus rapide maintenant. Uh-huh. On a moins de musiciens aussi.
Ah oui, c'était l'orchestre de 42e rue dirigé par Patrice Perrieras, mais avec les orchestrations de Thierry Boulanger.
Voilà.
Toujours directeur musical. Et vous me disiez que vous aviez... La trouille,
ah, j'avais
ce soir-là.
Un trac pas possible. Mais oui, parce que c'était la première fois. Le spectacle était assez attendu, on en parlait beaucoup, on sait qu'il aurait dû démarrer, et puis finalement, il y a un report. Et donc, c'était un petit peu, ah tiens, pour la première fois, on va pouvoir écouter un extrait du spectacle. En plus, un morceau qui est super connu. C'était super impressionnant de chanter avec comme ça un orchestre derrière et de s'exposer, en gros, de dévoiler un petit bout du spectacle pour la première fois.
Alors, vous dites que les auditions sont terminées juste avant l'épidémie de Covid et le confinement. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, vous avez vécu avec le personnage de Léo Blum, du coup ?
Bah, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que j'avais hâte de le rencontrer, comme on dit.
Mais vous saviez que vous étiez pris ?
Oui, on savait. On savait qu'on était pris, on ne se connaissait pas tous bien. Donc, on a fait connaissance par message. On s'est créé un groupe de conversation sur Messenger et on a papoté.
On avait Alexis Michalik au téléphone pendant le confinement qui nous racontait qu'il vous envoyait des tweetos pour les claquettes, c'est vrai ? Il vous maintenait comme ça un peu ?
Alors, c'est pas lui qui les envoyait, mais c'est Eva Tezurowski, notre chorégraphe claquette, qui est avec nous dans le spectacle, qui nous envoyait des tutos vidéo pour qu'on apprenne les claquettes. Elle nous donnait le nom des pas, comment ça se faisait, et puis on s'entraînait chez nous. L'équipe s'est dit finalement autant mettre ce retard à profit et autant apprendre en attendant de savoir quand est-ce qu'on pourra jouer. Donc on a bossé tous nos claquettes, chacun de notre côté.
Alors c'est un personnage donc longuement mûri. Est-ce que vous avez regardé le film, les producteurs, pendant ce temps-là ?
Ouais, je l'avais vu une fois il y a longtemps et je l'ai revu la veille du second tour des auditions. Parce que je voulais me mettre vraiment bien dans l'humeur, je voulais bien me remettre en tête tous les tenants, les aboutissants du personnage.
Qu'est-ce que vous avez repris à Mathieu Bonnet ?
J'ai pas repris grand-chose parce que je voulais surtout pas faire une imitation ou faire une copie. Je voulais vraiment essayer de trouver ma version de Léo Blum. Mais bon, sans faire exprès, forcément, j'ai dû reprendre, je sais pas, peut-être des mimiques, une gestuelle, quelque chose. Lui, il a ce truc, c'est qu'il est un petit peu Léo Blum dans la vie. Il y a une vidéo reportage sur l'enregistrement de l'album des producteurs où il explique en fait que... Enfin, c'est les autres qui expliquent que lui, c'est un petit peu Léo Blum dans la vie. Il a ce côté timide, facilement impressionné, un petit peu angoissé. Et donc c'est, pour lui, c'est très facile. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, donc c'était beaucoup plus une composition. Mais j'ai essayé de m'inspirer au maximum de ce que lui faisait, parce qu'évidemment, il le fait à la perfection.
Dans le film ?
Oui.
C'est lui qui...
C'est lui aussi. C'était lui à Broadway. C'était Nathan Lane et Matthew Broderick à Broadway. Et c'est eux dans le film de 2005. Qui a été donc réadapté de la comédie musicale. Le premier film de 68, c'est Gene Wilder. Ensuite, c'est devenu une comédie musicale en 2001. Et en 2005, ils ont de nouveau adapté un film totalement musical à partir de cette comédie musicale avec les acteurs de Broadway.
Alors voici un extrait du film The Producers avec Matthew Broderick et Uma Thurman, That Face.
The urge to merge can rob us of our senses. The need to breed can make a man a drone. We must be on alert with our defenses. For every skirt we'll test testosterone. So knowing this, I severed all connection with any creature sporting silk or lace. I was firmly headed in the right direction when suddenly I stumbled on that face. That face, that face, that dangerous face. I mustn't be unwise. Those lips, that nose, those eyes could lead to my demise. That face, that face, that marvelous face. I never should begin. Those cheeks, that neck, that chin will surely do me in. I must be smart and hide my heart if she's within a mile. If I don't duck, I'm out of luck. She'd kill me with her smile. That face, that face, that fabulous face. It's clear I must beware. I'm certain if I fall in love, I'm lost without a trace. But it's worth it for that face.
Thank you.
Extrait du film The Producers avec Nathan Lane et à l'instant Matthew Broderick et Uma Thurman. That Face, on peut dire c'est la chanson de déniaisage de votre personnage de petit comptable.
C'est là qu'il devient un grand garçon, ouais.
Amoureux et tout. Pourquoi vous dites que c'est une de vos chansons préférées ?
Mais parce que déjà, c'était la première chanson que mon premier coach de chant m'avait donné à travailler. J'adore cette chanson, j'adore le parcours de la chanson, j'adore ses sonorités typiques années 60 Broadway avec les grands violons.
Alors vous avez créé une pièce de théâtre mise en scène par Alexis Michalik. Comment ça se passe, une création d'Alexis Michalik ? Ça démarre d'abord combien de temps avant, après le Covid, hein, je veux dire évidemment ?
Ça démarre 6 semaines avant la première et surtout ça démarre par un filage. Le premier jour de répétition, il nous a demandé de faire un déroulé du spectacle.
Donc, alors ça c'est rare, si je comprends bien.
Voilà, oui. Oh là là,
et
oui.
Pourquoi c'est rare, hein ?
C'est rare parce que normalement on fait un filage au bout de la 4e semaine de répétition. Là c'est une création un peu particulière dans la mesure où ça a déjà été joué, ça a déjà existé. Mais parce que c'est la première fois que c'est joué en français. Donc quand bien même il a co-adapté le spectacle, il avait besoin de l'entendre. Et puis nous c'était aussi super chouette pour nous de... Bah ok, go, on y va, on connaît les personnages, on connaît la situation, on connaît notre texte. On y va.
Donc, premier jour, on connaît tout par cœur, parfaitement.
Ouais.
Et on a déjà la forme. En fait, j'ai l'impression que c'est vous qui apportez des propositions de forme à vos personnages. Il ressemblait à quoi, votre petit comptable, alors, ce premier jour ?
Il n'était pas assez névrosé par rapport à ce qu'a voulu Alexis Michalik après. Moi, je le faisais presque un peu trop timide au début, notamment dans la première scène, il y a une crise d'hystérie qui doit être vraiment explosive et j'osais pas aller suffisamment loin. Donc, il me disait, mais plus, vas-y, vraiment. Et en fait, ce qui est rigolo à trouver dans ce personnage de Léo Blum, c'est les contrastes. Il est tout timide, il a peur de tout. Par contre, dès qu'on touche à son petit doudou bleu, là, ça devient une espèce d'animal féroce. Et donc, c'est ces contrastes-là qui sont très chouettes. Après, il n'y avait pas à aller chercher trop loin. Les situations et le texte sont suffisamment clairs. Je l'imaginais vivre chez sa maman depuis toujours. ne jamais avoir connu de femme, par exemple.
Et ça, Michalik vous demande aussi ce genre de choses ?
Comment
vous fonctionnez avec lui dans ces cas-là ?
On propose beaucoup et puis ensuite lui il nous fait creuser dans cette direction ou alors il nous remet un petit peu dans une autre direction et puis on cherche ensemble, on trouve ensemble mais on arrive avec déjà une proposition assez forte.
Et c'est vrai que
de toute façon on a dû construire pendant les auditions.
Et c'est vrai que c'est un monstre de travail ?
Ouais, c'est un fou furieux.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il fait tout. Il fait tout, il veut gérer, il veut tout contrôler, il veut tout... Alors là, il a été un peu surpris, je crois, parce que dans la comédie musicale, il y a certains départements dont le metteur en scène n'est pas le chef direct, notamment les chorégraphies, la direction musicale. Donc il a un petit peu, je crois, découvert ce process de création d'une comédie musicale où il y a des matinées entières où tout le cast est assis avec Thierry Boulanger, en l'occurrence là, notre directeur musical, et puis on apprend nos voix, on apprend nos lignes d'harmonie, on apprend les chœurs, et puis on répète, et lui, il était là, et très vite, il disait, mais je ne sais pas trop quoi faire là, enfin, je m'ennuie un petit peu. Je crois que ça a été moitié rigolo, moitié surprenant pour lui de se rendre compte que parfois, il était là en répétition et que c'était le chorégraphe qui faisait les chorés. Donc, alors, il travaille étroitement avec tout le monde, évidemment. Il donne des couleurs aux chorégraphies. Il lui dit, là, je voudrais ça, je voudrais plus de la déambulation. Là, je voudrais pas de chorégraphie, je voudrais... Voilà.
Et ça donne un spectacle réussi, hautement rythmé et très... théâtral. Merci,
oui.
Benoît Cauden. Aujourd'hui, c'est vous qui programmez 42e rue.
Avec grand plaisir.
Et vous avez choisi ça.
When you're a jet all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, if the spit hits the fan, you got brothers around, you're a family man.
You're never alone.
You're never disconnected.
You're home with your own. When company's expected,
you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they caught you away. When you're a jet, you stay a jet. So meet Tony and me at the Dog Days dance at the gym tonight.
We can't rumble in the gym, it'll be lousy with cops.
Maybe we've had enough trouble with the Puerto Ricans for one day.
Relax, it's a social mixer, so we'll mix until the time's right to fix the rumble for tomorrow night. Be there 10 p.m., punctual like, dressed to kill, walking tall.
We always walk tall, we're jets!
The greatest. When you're a jet, you're the top cat in town.
You're the gold medal kid with the heavyweight crown.
When you're a jet,
you're the swinginest thing. Little boy, you're a man.
Little man, you're a king.
The jets every year. Our cylinders are clicking, the sharks will stay clear.
Cause every Puerto Rican's a lousy chicken.
Here come the jets like a bat out of hell. Someone gets in our way, someone don't feel so well. Here come the jets, little world, step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing a line, so keep your noses hidden. We're hanging a sign, this visit is forbidden.
And we ain't kidding.
Here come the jets, yeah. And we're gonna beat every last fucking gang on the whole fucking street, on the whole.
Benoît Cauden, programme 42e rue aujourd'hui, chef d'orchestre Gustavo Dudamel à la tête de l'orchestre philharmonique de New York. C'était la Jet Songs. Pourquoi cet extrait de la nouvelle version de West Side Story par Steven Spielberg, Benoît Cauden?
C'est un choix un petit peu égocentré. Bon, déjà parce que j'aime beaucoup West Side Story, que c'est le monument qu'on connaît dans les fondations de la comédie musicale. Et parce que j'ai eu la grande, grande chance d'être la voix française de Mike Feist dans le rôle donc de Riff, le chef des Jets, pour cette version de 2021 de Spielberg. Alors, on n'a pas fait les chansons ont été gardées en VO, y compris dans la version française, et c'est bien mieux comme ça. Mais voilà, c'était un grand plaisir pour moi de pouvoir faire ça, déjà parce que c'est le film préféré de ma mère, donc je me suis dit qu'elle serait très contente.
Pas le vôtre
hein. Non.
Non.
Ah ouais, okay. Non, bah non. Non, c'est son film culte à elle, qu'elle regarde 60 fois par an et elle pleure à chaque fois. Et donc voilà, c'était un grand honneur pour moi, à mon tout petit niveau, de faire partie un tout petit peu de ce West Side Story de Spielberg en faisant la voix du chef des Jets. J'aime ce moment où les bandes se construisent, les bandes se rassemblent, prêtes à s'affronter. Et puis tout ça en musique, en danse. Enfin, je trouve que c'est un mélange assez, assez magique.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Prochain titre sur la playlist de Benoît Cauden.
Qu'est-ce que ça va être ?
A musical.
Ah oui.
Une comédie musicale, extrait d'une comédie musicale que personne ne connaît en France, Something Rotten, qui en gros signifie il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est que ce morceau ? Expliquez-nous, c'est une scène très longue de 7 minutes.
C'est super long. C'est super long, mais je trouve ce morceau qui est formidable. C'est un morceau qui explique ce que c'est qu'une comédie musicale. En faisant un morceau de comédie musicale, évidemment, où un personnage décrit à un autre, bah voilà, dans une comédie musicale, les gens se mettent à chanter. Et puis donc, bah évidemment, l'autre va dire, mais enfin, c'est totalement débile, sauf qu'il va le dire en chantant. C'est-à-dire qu'il y a une mise en abîme qui est super marrante. Et j'adore ce morceau, je le trouve extrêmement drôle.
Alors, Something Rotten, c'est une comédie musicale qui a été montée à Broadway il y a, 5 ans. Ça se déroule à l'époque où Shakespeare est le grand auteur que tout le monde connaît. Et puis, il y a deux frères qui aimeraient bien être aussi populaires. Et l'un d'eux demande donc à Nostradamus quelle sera, selon lui, la prochaine grande œuvre théâtrale. Et donc, ce Nostradamus, comme vous l'expliquez, entrevoit une pièce où un acteur récite ses lignes et tout d'un coup se met à chanter.
What the hell are musicals?
It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yes.
Wait. So an actor is saying his lines and then out of nowhere he just starts singing?
Yes.
Well, that is the stupidest thing that I have ever heard. You're doing a play, got something to say, so you sing it? It's absurd! Who on earth is going to sit there while an actor breaks into song? What possible thought could the audience think other than this is horribly wrong?
Remarkably, they won't think that.
Seriously? Why not?
Because it's a musical, a musical. And nothing's as amazing as a musical, with song and dance and sweet romance and happy endings happening by happenstance. Bright lights, stage fights, and a dazzling chorus. You want to be great, then you gotta create a musical.
I don't know. I find it hard to believe people would actually pay to see something like this.
Let's just say it's a Saturday night and you want to go out on the town. Got a lady to flatter who might give it up if you don't let her down. You could go see a tragedy, but that wouldn't be very fun.
or a play from Greek mythology, see a mother have sex with her son.
Ugh. You could go see a drama with all of that trauma and pain.
Or go see something more relaxing and less taxing on the brain. Go see a musical,
a musical, a puppy piece releasing all your bluesicles, where crooners croon a catchy tune, and limber leggy ladies thrill you till you swoon. Oozahs, big applause, and a standing ovation.
The future is bright if you could just write a musical.
Some make you happy, some make you sad, some are quite big, some quite small. Some are too long, some are just plays with song. Some musicals have no talking at all.
No talking at all?
That's right, there's no talking. All of the dialogue is sung in a very dramatic fashion.
Really?
Yes, really.
There's no talking?
There's no talking. And they often stay on one note for a very long time, so that when they change to a different note, you notice. And it's supposed to create a dramatic effect, but mostly you just sit there asking yourself, why aren't they talking?
Sounds miserable.
I believe it's pronounced miserable.
And people actually like this?
No, they love it! And what's not to love? It's such a delight, there's nothing quite like a musical! Oh, another vision? I haven't even told you the best part yet! Feel that fascinating rhythm move into your feet!
What is that?
Feel your ass gyrating to that titillating beat!
Oh, are you okay?
You slap your lap, then finger snap. That's when you know it's time to tap.
Oh! What the hell are you doing now?
It's called a dance break. Apparently this happens in musicals as well. People on stage just burst into spontaneous dance.
Why? Does it advance the plot?
No!
Advance character?
Not necessarily.
Then why do it?
Because it's entertaining! 5, 6, 7! Cheering for
Des références à n'en plus finir à la comédie musicale de Broadway, à l'instant Chorus Line, avant c'était Annie, Chicago, cet extrait d'une comédie musicale s'intitule Something Rotten, c'était Brad Oscar qui interprétait Nostradamus, qui entrevoyait cet avenir du succès de la comédie musicale, et à ses côtés, Brian D'Arcy James. Ce qui est surprenant, Benoît Coden, c'est que vous m'avez dit que vous n'avez jamais vu cette comédie musicale.
Je n'ai jamais vu ce spectacle. Je n'ai jamais vu cette comédie musicale, mais je connais bien l'album et j'adore ce morceau. J'adore ce morceau parce qu'il détaille point par point, il décrive exactement ce qui constitue un numéro de comédie musicale qui fait qu'on adore. Il y a les ralentis rythmiques, les accélérés, les chorégraphies, il y a tout. Et donc, il décortique tout, il présente tout et ça en fait à part entière un numéro génial.
Alors, vous naissez à Suresnes, oui. Vous débutez par des pièces, j'allais dire, normales. Le alors c'est-à-dire parler,
oui, pas où on musical, chante pas, où on, voilà.
Le célibat par intermittence, vous étiez un dragueur de service,
oui.
Petite chronique d'un TER, et comment vous intéressez dans la comédie musicale, qu'est-ce qui se passe?
C'est en 2012 où j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui mon épouse, qui faisait de la comédie musicale déjà à l'époque, et donc je savais que ça existait, mais j'y connaissais vraiment rien, et puis ça ne m'attirait pas plus que ça, mais... Voilà, je me disais, tiens, oui, je sais que ça existe de chanter sur scène au milieu d'un spectacle. Bon. Et puis de l'avoir travaillé au quotidien, d'être allé la voir plusieurs fois, elle m'a fait découvrir plein de choses, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien apprendre à chanter pour peut-être un jour, on sait jamais, faire aussi de la comédie musicale. C'est une façon d'ouvrir un petit peu le spectre du comédien. Et donc j'ai rencontré mon premier coach de chant, Édouard Thiébaud, qui m'a donc fait travailler That Face, des producteurs.
Des producteurs, d'accord.
C'était presque prémonitoire. Mais donc voilà, donc j'ai appris à chanter. Et puis, j'ai timidement envoyé un petit peu mon CV à des auditions. Et puis, ça a marché. Voilà, après, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai pu participer à des lectures, d'autres spectacles. Jusqu'à aujourd'hui, où j'ai même un Molière pour face. Et c'est fou.
Alors, on vous a vu dans... Oliver Twist, la comédie musicale inspirée du roman de Charles Dickens, mise en musique par Shea Allon et écrit par Christopher Delarue, c'était à la salle Gaveau, et c'était sous la direction de Ladislas Chola, qu'on a l'habitude de voir diriger des pièces, notamment de Florian Zeller. C'est quoi la différence entre la méthode de travail de Ladislas Chola et celle d'Alexis Michalik?
Je dirais que Ladislas, il est plus dans l'intériorité des choses, là où Michalik va plus demander à ce qu'on soit sur l'instinct. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je raconte, mais chez Michalik, c'est un peu plus, c'est un peu plus explosif, c'est un peu plus dans l'immédiat, dans l'instinct, alors que Ladislas va nous proposer énormément de réflexions. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et donc ces deux approches totalement différentes, mais pour aboutir au même résultat, c'était très très intéressant de travailler avec Ladislas Chola. C'était vraiment formidable. C'est quelqu'un d'une gentillesse hallucinante et qui connaît vraiment chaque détail de son spectacle sur le bout des dents.
Alors Oliver Twist, ça se déroule à Londres, 19e oui. siècle, un petit orphelin recueilli par un pickpocket qui apprend les rudiments du vol. Et puis vous incarnez un pickpocket professionnel, un petit jeune.
Ah oui, un professionnel. Le bras droit du chef des voleurs, on va dire, qui est chargé de rabattre des nouvelles recrues, de repérer dans la rue les enfants un petit peu seuls pour les rabattre et le transformer en voleur.
Benoît Coden et Dickens, Nicolas Motet, Oliver.
Moi si j'étais ta maman, je serais sévère. Tu rentrerais dans les rangs, c'est clair.
Moi si j'étais ta maman, j'aurais l'air austère. Une bouche pincée, les yeux écarquillés.
Moi si j'étais ta maman, je t'interdirais tous les trucs chouettes et marrants.
Bien fait. Et si j'étais ta maman, je te punirais souvent et sans raison,
sans buter à foison.
Maman, mon but dans la vie, je l'ai trouvé. Je suis né pour chanter et danser
et dire que je pensais avoir fait un garçon.
Il joue avec ses copains au ballon. Poser de chanter pour de vrai, c'est un super projet. Je serai payé.
Moi en tant que ta maman, je veux ton bonheur. Tes envies, je les connais par cœur. Tout
petit déjà tu aimais bien
les fleurs.
Oui, c'était sûrement un signe. Dis-moi où c'est qu'on signe. Mon chéri, grâce à maman, tu vas être heureux. Si ton rêve c'est d'être en scène, tant mieux.
Mais dans ce genre de métier, vaut mieux être deux pour éviter les problèmes.
Oh, tu sais, ta maman t'aime.
Maman, j'ai toujours su que tu comprendrais. Déjà tout petit, je le savais. Quand tu m'enfermais dans ma chambre pendant des jours.
Pas vrai que c'était une preuve de mon amour.
Tu voulais me garder sans savoir partager.
Crois-moi, j'ai essayé, mais personne ne voulait de toi.
Maman, j'ai toujours su que tu comprendrais. Déjà tout petit, je le savais. Toutes ces punitions, tu les donnais par amour.
Maman, c'est pas qu'on a peur, c'est juste qu'on meurt du cœur.
Tous ces sentiments, tout ça c'est que du vent.
Ça va et puis ça vient.
Bah moi j'y connais rien.
Tous ces faux engagements que t'as fait, maman.
Benoît Cohen et Nicolas Motet dans la comédie musicale Oliver Twist.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Il y a une œuvre, vous m'avez dit, que vous rêvez d'interpréter. C'est The Book of Mormon, cette comédie musicale. J'adore, par les auteurs ouais. de South Park. Dites-nous ce que c'est et qui vous aimeriez interpréter d'ailleurs.
Bah, c'est les Mormons qui sont envoyés un petit peu à droite à gauche sur toute la planète pour aller faire du porte-à-porte et pour prêcher la parole de Jésus. Et donc il y a deux personnages, ils s'appellent tous Elder quelque chose. Donc il y a Elder Price qui est typique, le mormon, sérieux, propre sur lui, et qui se retrouve à partir en binôme avec Elder Cunningham, que j'aimerais beaucoup faire un jour.
L'idiot du village.
L'idiot du village, d'accord. Bah voilà, évidemment, c'est l'idiot du village qui est...
Pourquoi
qui est...
évidemment vous aimez bien ces rôles-là?
Mais parce que je suis souvent retenu pour faire les seconds couteaux rigolos, on va dire, les sidekicks un peu marrants. J'ai pas du tout... un profil de jeune premier, moi j'ai un profil de second rigolo, moi. Donc, et ça me convient, mais alors parfaitement, j'adore ces rôles-là. Et là, c'est parfaitement le binôme, comme dans Frankenstein Junior, où il y a le docteur Frankenstein et Igor. Moi j'ai un profil Igor. Voilà.
Alors, et donc, ils sont envoyés où?
Et donc, ils sont envoyés en Ouganda, ouais. Où ils vont devoir prêcher la bonne parole auprès... d'Ougandais qui n'ont absolument jamais entendu parler de Jésus, et ils vont être confrontés donc à une culture qu'ils ne connaissent pas. C'est un peu irrévérencieux, c'est tellement drôle et musicalement c'est génial.
Alors vous n'avez pas choisi le début, vous avez choisi le deuxième morceau, ça m'a surpris d'ailleurs.
Oui.
Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce morceau-là?
Alors je crois justement c'est le morceau où ils sont envoyés, c'est ça, c'est
ouais, two by two.
C'est ça, c'est quand c'est Dieu qui les envoie, qui les missionne, et donc c'est là que le binôme se crée entre Elder Price et Elder Cunningham, où ils apprennent qu'ils vont partir ensemble, et donc Elder Cunningham est interprété par Josh Gad, qui a fait le fou dans le film Live de La Belle et la Bête, qui est extrêmement drôle, qui chante extrêmement bien, que j'adore.
On est au début du spectacle, des Mormons qui attendent de connaître leur pays d'affectation, très motivés. Il y en a deux qui tombent sur la Norvège, très heureux, d'autres sur la France, et puis le duo en question qui tombe sur un pays dont ils ne connaissent pas le nom, l'Ouganda. On leur dit que c'est en Afrique et eux se disent « Ah oui, le pays du roi lion ».
Do you have any idea where they're sending you, Elder Price?
Well, of course, we don't really have final say over where we get sent, but... I have been praying to be sent to my favorite place in the whole world.
Well, if you prayed for a location, I'm sure Heavenly Father will make it happen.
You're like the smartest, best, most deserving elder the center's ever seen.
Aw, come on, you guys.
The most important time of a Mormon kid's life is his mission. A chance to go out and help heal the world. That's my mission. Soon I'll be off in a different place, helping the whole human race. I know my mission will be something incredible.
Elders,
form a line and step forward when your name is called. Elder Young.
Yes, sir.
Your mission, brother, will be Elder Grant.
That's me. Hey, brother.
And your mission location is Norway.
Oh, wow. Norway, land of gnomes and trolls.
Hoo-wa, hey-ya, shoo-wa, zada-up, wow.
Two by two, we're marching door to door. Cause God loves Mormons and he wants some more. A two-year mission is our sacrifice. We are the army of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Two by two, and today we'll know who will make the journey with and where we'll go. We're fighting for a cause, but we're really, really nice. We are the army of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Elder White and Elder Smith.
Oh, I knew we'd get paired together.
Your location will be France.
France, land of pastries and turtlenecks.
Two by two, I guess it's you and me. We're off to preach across land and sea.
Satan has a hold of France.
We need to knock him off his perch.
We are the soldiers of the army of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Elder Cross and Elder Green, you will be serving in Japan.
Oh, Japan!
Land of soy sauce!
And Mothra!
Elder Harris and Elder Brown.
Heavenly Father, where will I go on my mission? Will it be China or Old Mexico on my mission? Australia, where they say g'day, but I pray I'm sent to my favorite place, Orlando.
Uganda!
Uganda?
Uganda? Cool! Where is that?
Africa!
Oh boy! Like Lion King!
Two by two, and now it's time to go. Our paths have been revealed, so let's start the show. Our shirts are clean and pressed, and our haircuts are precise.
We are the army of the Church.
We are the army of the Church. We are the army of the Church of Jesus Christ!
Greatest book in history. We'll convert everyone all across the planet Earth. That is the beauty of the essence of the purpose of mission of the soldiers of the army of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Rather small, cause the posh papers are falling at your feet. So go ahead and snub me, and don't return my call, and build your house on top of Easy Street. But what you're gonna do when it all falls down, cause I let a little rumor spread. What you gonna do if I change the name of the person sleeping in your bed? What you gonna do when I tell the tale that makes the country turn its head? Just a little gossip and just a little lie, I'll simply say the little tramp is just a little spy. And what's he gonna do when it all falls down? you're gonna do when it all falls down, and where you're gonna go from there. What you're gonna do when the money's gone, and who you're gonna buy to care. What you're gonna do when the country says, now get yourself out of here. What you're gonna paint when you cannot paint the town. I'm gonna wipe the smile from that famous little clown. And what you're gonna do when it all.
Jane Colella, extrait de Chaplin, la comédie musicale sur la vie de Charlie Chaplin, All Falls Down. Le choix de notre invité Benoît Coden, pourquoi ce titre ?
Parce que pour moi c'est Broadway. Pour moi ce genre de morceau c'est Broadway. Avec des voix techniquement parfaites, un placement vocal assez particulier. Ça commence tranquillement et puis ça swing et puis ça part en big band. J'adore ce morceau et j'adore la voix de Jane Colella.
Qu'est-ce qu'il a, le placement de voix particulier ?
C'est un placement du fait des résonances anglaises de la langue. Le placement est différent. C'est pour ça que souvent, on a plus de facilité à chanter les chansons anglaises que françaises. C'est que c'est un placement qui est plus nasal. Et donc, c'est plus facile, je dirais, à chanter de l'anglais. Et Broadway, depuis quelques années, on entend, je trouve, ces sonorités-là très, très nasales. Pas nasillardes, nasales. Vraiment, dans les artistes de Broadway... Parce que ça fatigue beaucoup moins la gorge. Et puis oui, ça permet techniquement de faire des trucs super. Enfin voilà, je ne suis pas du tout un expert de ça. Mais je trouve qu'on entend dans cette voix-là ce placement qui est très américain, qui est très dans la pointe du nez.
Et vous l'utilisez
pas
sur scène
tout,
dans les producteurs ?
Parce que je ne sais pas le faire.
Ah, c'est toute une technique.
Non, 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 j'ai jamais appris ça. Non, je ne l'utilise pas du tout. Non, je ne crois pas. Ou en tout cas, si je le fais, je ne m'en rends pas compte.
Alors, il y a encore un titre que vous avez choisi qui nous ramène à 1998, Notre-Dame de Paris.
Oh là là.
Richard Cocciante.
Ben oui.
Eh ben, pourquoi ?
Parce que Notre-Dame de Paris, je crois que c'est le premier spectacle musical que j'ai entendu, que j'ai écouté. Et puis c'est un petit peu par là que la comédie musicale, au sens très large du terme, est arrivée en France. C'est-à-dire qu'avant ça, bon, on savait que ça existait. Les puristes connaissaient un petit peu, mais on n'avait pas vraiment de culture de comédie musicale en France. On peine toujours un peu à en avoir, mais on va dire que Notre-Dame de Paris, j'ai l'impression que c'est le premier spectacle musical qui a démocratisé, enfin qui a popularisé le genre.
Et vous, votre expérience avec cette œuvre, c'était quoi ? Vous aviez quel âge ?
Alors j'avais, en 98, j'avais 13 ans. Alors j'ai découvert moi très très tard Notre-Dame de Paris, je ne l'écoutais pas du tout quand j'étais jeune, ça ne m'intéressait pas vraiment encore. En revanche, quand je me suis intéressé à la comédie musicale, quand j'ai commencé à en faire, là j'ai eu envie de découvrir un petit peu les classiques. Et donc mon épouse m'a fait découvrir ça, c'est devenu notre gimmick, dès qu'on prend la voiture pour plus d'une heure, on écoute Notre-Dame de Paris, on chante à tue-tête. Et donc cette chanson, Les Portes de Paris, chantée par Bruno Pelletier, je l'adore. Déjà lui, j'adore sa voix, il a une rondeur, une perfection, je trouve, dans la voix, qui est extrêmement agréable. Et j'adore cette chanson. Et j'adore la hurler dans la voiture.
Les portes de Paris déjà se ferment sur la nuit de tous les cris. Tous les rires et de tous les désirs, la nuit de tous les vices qui s'assouvissent dans le lit de Paris, cabaret de tous les délires. Sur le pont au change, ce soir j'ai rencontré un ange qui m'a souri. A disparu dans les rues de Paris. Je l'ai suivi, je l'ai perdu. J'ai poursuivi la nuit de tous les rires et de tous
les désirs la nuit, de tous les vices qui s'assouvissent dans le lit de Paris, cabaret de tous les délires. Les portes de Paris déjà se ferment sur la nuit de tous les crimes, de tous les rires et de tous les désirs.
Let me tell you what I wish I'd known when I was young and dreamed of glory. You have no control.
Who lives, who dies, who tells your story?
President Jefferson.
I'll give him this. His financial system is a work of genius. I couldn't undo it if I tried. And I've tried.
Who lives, who dies, who tells your story?
President Madison.
He took our country from bankruptcy to prosperity. I hate to admit it, but he doesn't get enough credit for all the credit he gave us.
Who lives, who dies, who tells your story?
Every other founding father's story gets told. Every other founding father gets to grow old.
And when you're gone, who remembers your name? Who keeps your flame?
Who tells your story?
Who tells your story?
Who tells your story?
Eliza,
I put myself back in the narrative.
Eliza.
I stop wasting time on tears. I live another 50 years. It's not enough.
Eliza.
I interview every soldier who fought by your side.
She tells our story.
I try to make sense of your thousands of pages of writings. You really do write, but you're running out of time. I rely on Angelica. While she's alive, we tell your story. She is buried in Trinity Church near you. I needed her most, she was right on time. And I'm still not through. I ask myself, what would you do if you had more time? The Lord in his kindness, he gives me what you always wanted. He gives me more time. I raise funds in D.C. for the Washington Monument.
She tells my story.
I speak out against slavery. You could have done so much more if you only had time. And when my time is up, have I done enough? Will they tell your story? Oh, can I show you what I'm proudest of?
The orphanage.
I established the first private orphanage in New York City.
The orphanage.
I helped raise hundreds of children. I get to see them growing up.
The orphanage.
I see you, Alexander. I see you every time. And when my time is up, have I done enough?
Will they tell your story?
Oh, I can't wait to see you again. It's only a matter of time.
Will they tell your story? Who tells your story? Will they tell your story? Lives and dies, who tells your story?
Le final d'Hamilton et Benoît Cohen qui était plongé dans je ne sais quoi d'ailleurs.
Ah bah dans une transe. Ah, ce morceau, il me bouleverse à chaque fois. Il est, en fait, je trouve que c'est une façon de terminer ces 2h30 de spectacle que sont les 2h30 d'Hamilton, avec une telle délicatesse et une telle force en même temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de finales de comédies musicales qui sont très grandiloquents, qui terminent sur des chœurs projetés, des grosses pêches de batterie, bala, pam! Et pour finir comme ça sur une impression de grandeur et tout, et ça marche et c'est très efficace. Et là, celui-ci il termine, mais alors de la façon la plus douce possible, un petit chœur a cappella, et puis ce morceau résume enfin, résume, il résume pas ce qui vient de se passer, mais c'est l'épilogue du spectacle. On apprend ce qui se passe en gros après. Il y a une ellipse. C'est un avance rapide dans le temps où on apprend tout ce qui s'est passé. C'est vraiment un atterrissage, je trouve. On est pris dans une histoire et puis là, on atterrit en douceur. Paf, on se fait déposer. Et il y a juste, voilà, il reste ce silence incroyable qui fait encore partie du spectacle. À la fin de ce morceau, je trouve qu'il est, c'est une rare perfection.
Hamilton, l'histoire d'Alexander Hamilton et à travers ça, de la création des États-Unis. D'ailleurs, une comédie musicale de Lin-Manuel Miranda que vous pouvez tous regarder sur la plateforme Disney+. Ils ont mis même maintenant les sous-titres, ce qui n'était pas le cas pendant plusieurs mois. Ouais. Merci beaucoup, Benoît Cauden.
Merci à vous.
On vous retrouve au Théâtre de Paris dans moins de 2 heures.
Oui, je vais filer.
Sur la scène des producteurs. Et puis, certainement demain, vous passerez par le Casino de Paris.
Absolument.
Pour les trophées de la comédie musicale. Vous êtes encore une fois nommé.
Oui, mais on a aussi surtout la chance avec le spectacle de réunir 11 nominations, je crois. C'est merveilleux, c'est formidable, c'est magnifique.
Et après, les producteurs, on fait quoi? Une comédie musicale ou on revient dans la voie du théâtre normal?
On verra. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Déjà, on va terminer ce petit bout de saison le 26 juin. On va reprendre à partir du 15 septembre, toujours au Théâtre de Paris. Et puis ensuite, pour la suite, on verra. Peut-être du théâtre, peut-être une nouvelle comédie musicale, je ne sais pas.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On vous racontera tout dimanche prochain sur les trophées de la comédie musicale et puis dès demain sur la page Facebook de 42e rue et le compte Instagram et Twitter podcasté, téléchargé 42e rue. On est sur toutes les plateformes. Une émission de France Musique à retrouver aussi sur le site et l'appli Radio France. Merci à Barbara Alotto, Martine Moni, Amandine Frichou, à la réalisation à Céline Parfenoff. Très bon dimanche sur France Musique.
Rideau.
À réécouter sur francemusique.fr.